Question. L'amour, n'est-ce pas donner plutôt que de recevoir? Réponse. Non. Question. Vraiment? Réponse. Non, ça ne l'a jamais été. Question. Mais tu as toi-même dit, il y a juste un moment, que l'amour n'a aucune exigence, précisant que c'est là ce qui fait que c'est l'amour. Réponse. Et c'est vrai. Question. Eh bien, à mon avis, cela ressemble tout à fait à donner plutôt que de recevoir. Réponse. Alors, tu dois relire le chapitre 8 du tome 1. Tout ce à quoi je fais allusion ici, je te l'ai expliqué là-dedans. Ce dialogue était destiné à être lu à la suite et considéré comme un tout. Question. Je sais. Mais pour les lecteurs qui n'ont pas lu le tome 1, pourrais-tu expliquer, s'il te plaît, où tu veux en venir à présent? Car franchement, j'aurais moi-même besoin d'une récapitulation, et j'ai maintenant seulement l'impression de comprendre cette matière. Réponse. D'accord. Voici. Tout ce que tu le fais pour toi. C'est vrai, parce que tous les autres et toi ne faites qu'un. Ce que tu fais pour un autre, tu le fais donc pour toi. Ce que tu négliges de faire pour un autre, tu négliges de le faire pour toi-même. Ce qui est bon pour un autre est bon pour toi, et ce qui est mauvais pour lui l'est pour toi. C'est la vérité la plus fondamentale, mais c'est la vérité que tu ignores le plus souvent. Ainsi, quand tu es en relation avec quelqu'un, cette relation n'a qu'un seul but. C'est un véhicule qui te permettra de décider et de déclarer, de créer et d'exprimer, de vivre et d'accomplir l'idée la plus élevée que tu te fais de qui tu es vraiment. Par conséquent, si qui tu es vraiment est une personne prévenante et empressée, attentive et généreuse, compatissante et affectueuse, si tu es ainsi avec d'autres, tu vis l'expérience la plus grandiose pour laquelle tu t'es incarné. Voilà pourquoi tu t'es incarné. Parce que ce n'est que dans le royaume du physique et du relatif que tu pouvais te connaître sous cette forme. Dans le royaume de l'absolu dont tu viens, cette expérience de connaissance est impossible. Toutes ces idées, je te les ai expliquées de façon beaucoup plus détaillée dans le tome 1. Alors, si qui tu es vraiment est un être qui ne s'aime pas et se laisse abuser, blesser et détruire par les autres, alors tu répéteras des comportements qui te permettront de faire l'expérience de cela. Mais si tu es vraiment une personne prévenante et respectueuse, attentive et généreuse, compatissante et affectueuse, tu t'incluras parmi les gens avec lesquels tu es cela. En effet, tu commences par toi-même. Tu te donnes la première place en ces domaines. Dans la vie, tout dépend de qui on cherche à être. Si par exemple, tu cherches à ne faire qu'un avec les autres, c'est-à-dire à faire l'expérience d'un concept que tu sais déjà vrai, tu te comporteras d'une manière très précise qui te permettra de faire l'expérience et la démonstration de ton unité. Et lorsque tu poseras certains gestes à la suite de cela, tu n'auras pas l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais plutôt pour toi-même. Il en sera ainsi peu importe ce que tu cherches à être. Si tu cherches à être amour, tu vivras des moments d'affection avec les autres, non pas pour les autres, mais avec les autres. Remarque la différence, saisis la nuance. Tu feras des choses affectueuses avec les autres pour toi-même afin de pouvoir réaliser et faire l'expérience de l'idée la plus grandiose que tu te fasses de toi-même et de qui tu es vraiment. En ce sens, il est impossible de faire quoi que ce soit pour un autre car chaque acte que tu poses de ta propre volonté n'est littéralement que cela, un acte. Tu es un acteur, c'est-à-dire que tu crées et joues un rôle, sauf que tu ne fais pas semblant. Tu es vraiment le personnage de ce rôle. Tu es un être humain. Tu es ce que tu es, tu le décides et tu le choisis. Votre Shakespeare n'a-t-il pas dit « être ou ne pas être, voilà la question » Et n'a-t-il pas dit aussi « sois fidèle à toi-même, il s'ensuivra comme la nuit suit le jour, que tu ne pourras tromper personne ». Si tu es fidèle à toi-même, si tu ne te trahis pas, quand tu auras l'impression d'être en train de donner, tu sauras qu'en réalité tu es en train de recevoir. Tu te redonneras littéralement à toi-même. Tu ne peux vraiment rien donner à un autre pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autre. Si nous ne faisons tous qu'un, alors il n'y a que toi. Question. Cela me paraît être un truc sémantique, une façon de changer les mots pour modifier leur sens. Réponse. Ce n'est pas un truc, mais bien de la magie. Et cela n'a rien à voir avec le fait de changer les mots pour en modifier le sens, mais bien plutôt avec le fait de changer les perceptions pour modifier l'expérience. Toute ton expérience est fondée sur tes perceptions, et celles-ci sont fondées sur ta compréhension, qui, elle, est fondée sur tes mythes, soit sur ce qu'on t'a dit. À présent, je te dis ceci. Vos mythes culturels actuels ne vous ont pas servi. Ils ne vous ont pas amené là où vous dites vouloir aller. Ou bien vous vous mentez à vous-même à propos de votre prétendue destination, ou bien vous ne voyez pas que vous n'y arriverez pas, ni en tant qu'individu, ni en tant que pays, qu'espèce ou que race. Question. D'autres espèces y arrivent-elles ? Réponse. Oh oui, incontestablement. Question. D'accord, j'ai attendu suffisamment longtemps. Parlement. Réponse. Bientôt, très bientôt. Et je veux d'abord te dire comment tu peux modifier ton invention appelée mariage de façon qu'elle t'amène là où tu dis vouloir aller. Question. Oui, eh bien, je veux vraiment le savoir. Je veux vraiment savoir s'il y a moyen que les êtres humains puissent exprimer l'amour véritable. Alors, je termine cette section de notre dialogue là où je l'ai commencé. Quelles limites pouvons-nous, en fait, certains diraient devant nous, donner à cette expression ? Réponse. Aucune. Absolument aucune. Et c'est ce que vos vœux de mariage devraient affirmer. Question. C'est étonnant car c'est exactement ce qu'affirmaient mes vœux de mariage avec Nancy. Réponse. Je sais. Question. Quand Nancy et moi avons décidé de nous marier, j'ai eu l'inspiration soudaine d'écrire de nouveaux vœux de mariage. Réponse. Je sais. Question. Et Nancy s'est jointe à moi. Elle était d'accord. Nous ne pouvions échanger les vœux de mariage devenus traditionnels. Réponse. Je sais. Question. Nous nous sommes assis, nous avons créé de nouveaux vœux qui, eh bien, défiaient l'impératif culturel, comme tu dirais. Réponse. Oui, c'est ce que vous avez fait. J'en étais très fier. Question. Et en les écrivant, en couchant ces vœux sur papier pour que le pasteur les lise, je crois vraiment que nous étions tous les deux inspirés. Réponse. Bien sûr, vous l'étiez. Question. Tu veux dire que... Réponse. Qu'est-ce que tu crois ? Que je viens vers toi uniquement quand tu écris des livres ? Question. Oh. Réponse. Oui, oh. Alors pourquoi n'insères-tu pas tes vœux de mariage ici ? Question. Hein ? Réponse. Vas-y, tu en as un exemplaire, insère-les ici même. Question. Eh bien, nous ne les avons pas créés pour les exposer au monde entier. Réponse. Quand ce dialogue a commencé, tu ne croyais pas l'exposer un jour au monde entier. Vas-y, insère-les. Question. Mais je ne peux pas laisser croire aux gens que je leur dis « Nous avons écrit les vœux de mariage parfaits ». Réponse. Tu t'inquiètes soudainement de ce que les gens diront. Question. Allons, tu sais ce que je veux dire. Réponse. Écoute, personne n'affirme que ce sont là les vœux de mariage parfaits. Question. Alors d'accord. Réponse. Ce sont seulement les meilleurs que quiconque ait trouvé jusqu'ici sur votre planète. Question. Réponse. Je blaguais, sourions. Vas-y, insère ces vœux. J'en assume la responsabilité et les gens vont les adorer. Cela leur donnera une idée de ce dont nous parlons ici. Tu pourras même inviter d'autres gens à reprendre ces vœux, qui ne sont pas vraiment des vœux, mais bien plutôt des affirmations de mariage. Question. Alors d'accord. Voici ce que Nancy et moi nous nous sommes dit l'un à l'autre quand nous nous sommes mariés. Merci pour l'inspiration que nous avons reçue. Le pasteur. Neil et Nancy sont venus ici ce soir pour faire une promesse solennelle et pour échanger un vœu sacré. Nancy et Neil sont venus rendre public leur amour mutuel pour annoncer leur vérité, pour déclarer leur choix de vivre, d'être partenaires et de croître ensemble, à haute voix et en votre présence, désireux de vous amener tous à sentir une partie très réelle et intime de leur décision, et ainsi de la rendre encore plus forte. Ils sont également venus en espérant aussi que leur rituel de liaison nous aidera à nous rapprocher tous. Si vous êtes ici ce soir, avec un conjoint ou un partenaire, que cette cérémonie soit un rappel, une nouvelle consécration de votre propre lien amoureux. Nous commençons par poser une question. Pourquoi se marier ? Neil et Nancy ont répondu à cette question pour eux-mêmes et m'ont donné leur réponse. À présent, je veux la leur poser une fois de plus afin qu'ils puissent être certains de leur réponse et de leur compréhension et fermes quant à leur engagement vis-à-vis de la vérité qu'ils partagent. Le pasteur prend deux roses rouges sur la table. Voici la cérémonie des roses par laquelle Nancy et Neil partagent leur entente et commémorent ce partage. Alors, Nancy et Neil, vous m'avez dit vous entendre tous les deux sur le fait que vous n'entrez pas dans ce mariage pour des raisons de sécurité, que la seule sécurité réelle n'est pas dans la possession, ni dans le fait d'être possédé, ni en exigeant, en croyant, ou même en espérant que l'autre vous fournira ce dont vous pensez avoir besoin dans la vie, mais plutôt en sachant que tout ce dont vous avez besoin dans la vie, tout l'amour, toute la sagesse, toute l'intuition, tout le pouvoir, toute la connaissance, toute la compréhension, toute l'affection, toute la compassion et toute la force résident en vous. et que vous ne vous mariez pas dans l'espoir d'obtenir ces choses, mais dans l'espoir d'offrir ces cadeaux, afin que l'autre puisse les avoir encore plus abondamment. Vous entendez-vous fermement là-dessus ce soir ? Ils répondent oui. Et Neil et Nancy, vous m'avez dit vous entendre fermement sur le fait que vous n'entriez pas dans ce mariage afin de vous limiter, de vous contrôler, de vous empêcher de quoi que ce soit ou de vous restreindre l'un l'autre d'aucune façon, de toute expression véritable et de toute célébration honnête de ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé en vous, y compris votre amour de Dieu, votre amour de la vie, votre amour des gens, votre amour de la créativité, votre amour du travail, ou tout aspect de votre être qui vous représente de façon authentique et qui vous apporte la joie. Vous entendez-vous encore fermement là-dessus ce soir ? Ils répondent oui. Finalement, Nancy et Neil, vous m'avez dit ne pas considérer le mariage comme une production d'obligation, mais plutôt comme une offre d'occasion, d'occasion de croître, de pleinement vous exprimer, d'élever votre vie à son potentiel le plus élevé, de guérir chaque idée fausse ou mesquine que vous ayez jamais eue à propos de vous-même et de vivre l'ultime réunion avec Dieu à travers la communion de vos deux âmes. Que ceci est véritablement une sainte communion, un voyage dans la vie avec quelqu'un que vous aimez comme un partenaire égal, en partageant également l'autorité et les responsabilités inhérentes à tout partenariat, en portant également les fardeaux qui peuvent survenir, en jouissant également des merveilles. Est-ce la vision dans laquelle vous souhaitez entrer maintenant ? Ils répondent oui. Je vous donne maintenant ces roses rouges, qui symbolisent votre compréhension individuelle de ces choses terrestres, afin que vous sachiez et que vous vous entendiez tous les deux sur la façon dont vous vivrez dans la forme corporelle et au sein de la structure physique appelée mariage. Offrez-vous maintenant ces roses, avec amour, comme des symboles de votre partage, de ces accords et de ces ententes. À présent, veuillez prendre chacun cette rose blanche. Elle symbolise vos ententes plus larges, votre nature et votre vérité spirituelle. Elle symbolise la pureté de votre soi réel le plus élevé et la pureté de l'amour de Dieu qui luit sur vous, maintenant et à jamais. Le pasteur donne à Nancy la rose portant l'anneau de Neil sur une tige et à Neil la rose portant l'anneau de Nancy. Quel symbole avez-vous apporté pour vous rappeler les promesses échangées aujourd'hui ? Chacun retire l'anneau de la tige, le donnant au pasteur, qui les tient à la main en prononçant les paroles suivantes. Le cercle est le symbole du soleil, de la terre et de l'univers. C'est un symbole de sainteté, de perfection et de paix. C'est aussi le symbole de l'éternité, de la vérité spirituelle, de l'amour et de la vie, de ce qui n'a ni commencement ni fin. Et en ce moment, Neil et Nancy choisissent que ce soit aussi un symbole d'unité, mais non de possession, de jonction, mais non de restriction, d'encerclement, mais non de piégeage. Car l'amour ne peut être possédé ni restreint, et l'âme ne pourra jamais être prise au piège. À présent, Neil et Nancy, veuillez prendre ces anneaux que vous voulez vous donner l'un à l'autre. Ils prennent les anneaux l'un de l'autre. Neil, s'il te plaît, répète après moi. Moi, Neil, je te demande, Nancy, d'être ma partenaire, mon amante, mon amie et ma femme. Je t'annonce et déclare mon intention de t'accorder mon amitié et mon amour les plus profonds, non seulement dans tes moments forts, mais aussi dans tes moments faibles, non seulement lorsque tu te rappelleras clairement qui tu es, mais aussi quand tu l'oublieras, non seulement lorsque tu agiras avec amour, mais aussi lorsque tu ne le feras pas. Je t'annonce également, devant Dieu et devant ceux ici présents, que je chercherai toujours à voir en toi la lumière de la divinité, et chercherai toujours à partager la lumière de la divinité en moi-même, et surtout dans tous les moments de noirceur qui pourront survenir. J'ai l'intention d'être, à jamais avec toi, dans un partenariat sacré de l'âme, afin que nous puissions accomplir ensemble l'œuvre de Dieu, en partageant tout ce qui est bon en nous, avec tous ceux dont nous atteignons la vie. Le pasteur se tourne vers Nancy. Nancy, choisis-tu de satisfaire la demande de Neil et d'être son épouse ? Elle répond oui. À présent, Nancy, répète après moi, s'il te plaît. Moi, Nancy, je te demande Neil, et elle prononce le même vœu. Le pasteur se tourne vers Neil. Neil, choisis-tu de satisfaire la demande de Nancy et d'être son époux ? Il répond oui. Alors, veuillez tous les deux prendre les anneaux que vous allez vous échanger et répéter après moi. Avec cet anneau, je t'épouse. Je prends maintenant l'anneau que tu me donnes, ils échangent leurs anneaux, et le glissent à mon doigt. ils glissent les anneaux à leurs doigts. Afin que tous puissent voir et connaître mon amour pour toi. Le pasteur conclut. Nous reconnaissons avec une conscience entière que seul un couple peut s'administrer mutuellement le sacrement du mariage et que lui seul peut le sanctifier. Ni mon Église, ni aucun pouvoir qui me soit conféré par l'État ne peut m'accorder l'autorité de déclarer ce que seuls deux cœurs peuvent se déclarer et ce que seules deux âmes peuvent rendre réel. Ainsi, à présent, dans la mesure où toi, Nancy, et toi, Neil, avez prononcé les vérités déjà écrites dans vos vœux et avez été témoins des mêmes vérités en présence de ces gens, vos amis, et de l'unique esprit vivant, nous observons joyeusement que vous vous êtes déclarés mari et femme. Joignons-nous à présent dans la prière. Esprit d'amour et de vie, dans ce vaste monde, deux âmes se sont trouvées. Leurs destinées tisseront maintenant une même trame, et leurs périls et leurs joies ne seront pas séparés. Neil et Nancy, que votre foyer soit un lieu de bonheur pour tous ceux qui y entreront. Un lieu où jeunes et vieux seront renouvelés en compagnie l'un de l'autre. Un lieu de croissance et un lieu de partage. Un lieu de musique et un lieu de rire. Un lieu de prière et un lieu d'amour. Que ceux qui sont les plus près de vous soient constamment enrichis par la beauté et l'abondance de votre amour l'un pour l'autre. Que votre travail soit une joie de votre vie qui serve le monde et que vos jours sur cette terre soient bons et longs. Amen. Question. Cela me touche tellement. Je suis si honoré, si béni d'avoir trouvé quelqu'un dans ma vie qui pouvait prononcer mes paroles avec moi et les sentir. Mon cher Dieu, merci de m'avoir envoyé Nancy. Réponse. Tu as un cadeau pour elle aussi, tu sais. Question. J'espère. Réponse. Fais-moi confiance. Question. Sais-tu ce que je souhaite? Réponse. Non. Quoi? Question. Je souhaite que tous les gens puissent prononcer ces affirmations de mariage. Qu'ils puissent les découper ou les copier et les utiliser pour leur mariage. Je parie que nous allons voir dégringoler le taux de divorce. Réponse. Certaines gens auraient beaucoup de difficultés à prononcer ces mots, et beaucoup auraient de la difficulté à y rester fidèles. Question. J'espère seulement que nous pourrons y rester fidèles. Le problème en insérant ces paroles ici, c'est que nous devrons les respecter. Réponse. Vous n'envisagiez pas de la respecter? Question. Bien sûr que oui, mais nous sommes humains, comme n'importe qui. Mais maintenant, si nous échouons, si nous vacillons, si quelque chose devait survenir dans notre relation, ou, bon sang, si nous ne devions jamais choisir d'y mettre fin sous sa forme actuelle, toutes sortes de gens seraient désillusionnés. Réponse. Foutaise. Ils vont savoir que tu es fidèle à toi-même. Ils sauront que tu as fait un choix ultérieur, un nouveau choix. Rappelle-toi tout ce que j'ai dit dans le tome 1. Ne confonds pas la durée de ta relation avec sa qualité. Tu n'es pas un symbole, Nancy non plus, et personne ne devrait vous placer sur ce plan, et vous ne devriez pas non plus vous y placer. Soyez seulement humain, soyez seulement pleinement humain. Si, à un moment donné, Nancy et toi sentez le désir de réformer votre relation d'une façon différente, vous aurez parfaitement le droit de le faire. C'est l'essentiel de tout ce dialogue. Question. Et c'était l'essentiel des affirmations que nous avons faites? Réponse. Exactement. Je suis heureux que tu vois cela. Question. Oui, j'aime ces affirmations de mariage, et je suis content que nous les ayons insérées. C'est une nouvelle et merveilleuse façon de commencer une vie ensemble. Plus question de demander à la femme de promettre d'aimer, d'honorer et d'obéir. Exiger cela était pharisaïque, gonflé et prétentieux de la part des hommes. Réponse. Tu as raison, bien sûr. Question. Et ça l'était encore plus de proclamer qu'une telle prééminence masculine était ordonnée par Dieu. Réponse. Encore une fois, tu as raison. Je n'ai jamais ordonné rien de tel. Question. Enfin, des paroles de mariage vraiment inspirées par Dieu. Des paroles qui ne font de personne un bien, une propriété personnelle. Des paroles qui disent la vérité à propos de l'amour. Des paroles qui n'imposent aucune limite, mais ne promettent que la liberté. Des paroles auxquelles tous les cœurs peuvent rester fidèles. Réponse. Certains lanceront. Bien sûr, n'importe qui peut respecter des vœux qui n'engagent à rien. Que répondras-tu à cela ? Question. Je dirais, il est beaucoup plus difficile de libérer quelqu'un que de le dominer. Quand on contrôle quelqu'un, on obtient ce qu'on veut. Quand on libère quelqu'un, il obtient ce qu'il veut. Réponse. Tu auras parlé avec sagesse. Question. J'ai une idée merveilleuse. Je crois que nous devrions publier un petit livret avec ces affirmations de mariage, une sorte de petit livret de prière que les gens pourraient utiliser le jour de leur mariage. Il contiendrait non seulement ces paroles, mais une cérémonie entière et des observations clés sur l'amour et la relation tirées des 3 tomes de ce dialogue, ainsi que certaines prières et méditations spéciales sur le mariage. D'ailleurs, tu n'es pas contre le mariage ? Je suis si heureux, car j'ai cru un moment que tu étais anti-mariage. Réponse. Comment pourrais-je être contre le mariage ? Nous sommes tous mariés. Nous sommes mariés les uns aux autres, maintenant et à jamais. Nous sommes unis. Nous ne faisons qu'un. Notre cérémonie de mariage est la plus grande jamais tenue. Mon vœu envers toi est le vœu le plus grandiose jamais prononcé. Je t'aimerai toujours et te libérerai pour tout. Mon amour ne te liera jamais, aucunement, et en raison de cela, tu seras destiné à m'aimer, car la liberté d'être qui tu es est ton plus grand désir et ton plus grand cadeau. M'acceptes-tu maintenant pour ton partenaire et co-créateur légalement marié, selon les lois les plus élevées de l'univers ? Question. Oui. Et me prends-tu maintenant pour ton partenaire et co-créateur ? Réponse. Oui. Et je l'ai toujours fait. Maintenant et dans toute l'éternité, nous ne faisons qu'un. Amen. Question. Amen.